Vous êtes sur RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin le secrétaire d'État chargé du numérique, Cédric O.
Et bienvenue dans ce studio d'RTL. Bonjour Cédric O.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
On va parler de la haine en ligne. Est-ce qu'elle continue de prospérer? Est-ce que c'est mesuré d'ailleurs?
Alors, elle continue de prospérer, elle se développe même. Il y a des études qui disent qu'elle a augmenté en un an de près de 30%, donc c'est considérable. Après, honnêtement, on n'a pas besoin d'études. Je pense que vous, moi, chacun de vos auditeurs, il suffit de se rendre quelques minutes sur Twitter ou sur Facebook pour constater qu'on y voit proliférer insultes, racistes, homophobes, antisémites, injures, menaces de mort, etc., etc. Et donc, c'est un sujet que chacun peut expérimenter au jour le jour, malheureusement.
La question que je vous pose ce matin, et on va aller dans le détail, mais pourquoi faut-il d'abord une loi? Il y a une loi qui arrive en séance à l'Assemblée nationale la semaine prochaine pour tenter justement d'éradiquer, autant faire se peut, ces torrents d'insultes et de haine qui se déversent sur les réseaux sociaux. Faire une nouvelle loi, il n'y en avait pas assez. On ne pouvait pas faire autrement, par exemple, demander aux opérateurs, aux grandes plateformes, de faire le ménage toute seule?
Alors, il faut faire trois choses pour réguler la haine en ligne. La première, c'est de punir les auteurs. Donc ça, c'est pas besoin de la loi, il y a un certain nombre de choses qui existent. C'est d'abord de l'organisation de la justice, et c'est des éléments sur lesquels Nicole Belloubet a fait des annonces, et on va avancer. La deuxième chose pour laquelle il y a besoin d'une loi, et c'est sur quoi se concentre la loi proposée par la députée Laetitia Avia, c'est de fixer des obligations de responsabilité aux grands réseaux sociaux. De faire en sorte de dire que, comme ils concentrent jusqu'à 40 millions de Français aujourd'hui sur Facebook, donc c'est beaucoup, et qu'on y voit une viralité qu'on ne voit nulle part ailleurs, il faut faire en sorte, quand il y a des contenus dangereux ou illicites, qu'ils soient retirés. Et nous, ce qu'on va dire, c'est qu'ils doivent se mettre en position de les retirer en moins de 24 heures. Et pour ça, il n'existait pas de base juridique, et c'est celle qu'on crée.
Alors moi, j'ai une question de Béotienne. Qui décidera que le contenu signalé, par vous, par moi, qui le voyons, qui nous sentons insultés sur un réseau social, qui décidera que c'est illégal? Qui validera l'illégalité de ce contenu?
Alors, aujourd'hui, la manière dont ça va se passer, c'est qu'il y a des contenus qui sont noirs ou blancs. Certaines insultes caractérisées, on le saura. Sur certains contenus qui sont gris, c'est-à-dire donc qui nécessitent interprétation, on fera en sorte de mettre en place un groupe de travail entre les plateformes, la justice, l'administration, qui donnera, chaque mois, chaque trimestre, je ne sais pas, des indications.
Alors, vous me permettez qu'on précise, parce que, par exemple, un contenu gris, on peut le comprendre, il y a eu un débat cet hiver là-dessus. En France, il y a effectivement des subtilités entre un propos antisémite et un propos antisioniste.
Exactement.
Il y a, dans les clips de rap, on peut se sentir personnellement, quand on est femme, totalement insultée par les propos sexistes, alors que c'est la liberté du créateur, etc., etc. Ça, c'est quand même assez subtil. Est-ce que c'est un modérateur de Facebook ou un algorithme qui peut juger de ça?
Non, il y a un principe de base, c'est que ce n'est pas aux réseaux sociaux de décider ce qui est légal ou pas légal. Les seuls qui peuvent décider, in fine, c'est la justice. Seulement la justice, parfois, elle met un peu de temps à passer et à décider. Donc ce qu'on va mettre en place, c'est une instance qui permettra, dans le dialogue entre la société civile, l'administration et les plateformes, de donner des indications chaque mois en disant voilà, qu'est-ce que vous avez vu comme principaux problèmes le mois dernier, et on vous donne des indications. Tel type de contenu, on estime que c'est plutôt illicite et faut l'enlever.
Vous voulez dire
tel type
qu'il y aura
de contenu, on le fait pas.
La suppression en 24 heures et ensuite il y aura une instance qui examinera la pertinence de la suppression?
Je pense que le premier sujet, c'est que pour 90% des contenus, c'est assez facile de dire s'ils sont licites ou illicites. Il y a un certain nombre de
contenus. Oui, mais il y a des questions de principe aussi qui se posent par rapport à ça.
Bien sûr, mais il y a aussi une question de protection. C'est-à-dire que si on s'abrite à chaque fois derrière le sujet de c'est plus compliqué, alors on retire quasiment rien. Donc il y a une question d'efficacité, et la première chose, c'est de protéger les Français. Ensuite, on comprend bien qu'il faut protéger aussi la liberté d'expression et que seule la justice peut le faire. Donc il y a une jurisprudence à construire, et c'est ce qu'on veut faire. Dans l'attente, pour faire en sorte que les réseaux sociaux puissent gérer les choses dans le bon temps, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre 6 mois que la justice passe, alors on donnera des indications. Le CSA probablement dira tel contenu à partir de ce groupe de travail, on estime qu'il faut plutôt le retirer ou pas. Ça pourra être déjugé par la justice, mais ça permettra de gérer les choses au fil de l'eau.
D'accord, donc si vous me permettez, je reprends la chronologie de ce qui pourrait être mis en place à partir du moment où la loi serait votée et le décret publié. Une obligation, une pression sur les opérateurs pour qu'en 24 heures, ils retirent un propos injurieux, haineux, etc.
Exactement, qu'ils aient les moyens de le faire.
Voilà, sinon sous menace de sanctions financières lourdes. Je crois que vous avez la loi établie...
Jusqu'à 4% du chiffre d'affaires.
4% du chiffre d'affaires, c'est pas mal.
C'est
Et ensuite, le CSA peut-être, sans doute, pourra être saisi de...
On leur dit, vous devez vous donner les moyens de retirer les contenus problématiques en 24 heures. On vous donne des indications au fil de l'eau pour le faire et pour vous aider à le faire, parce que c'est pas à vous de le faire. Et puis, si jamais vous avez si jamais quelqu'un estime que ça a été injustement fait, il peut se retourner devant la justice. Et in fine, c'est toujours la justice qui doit statuer.
Et in fine, vous tentez de rassurer les juges, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui voient encore un caractère répressif, encore de la répression, sur, dans un domaine, la liberté d'expression, qui est vrai et compliquée.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut trouver la ligne de crête entre liberté d'expression et protection. Mais aujourd'hui, il faut régler le problème. Et juste pour vous donner une idée des volumes que ça concerne, prenons la vidéo de Christchurch. Christchurch, c'est la mosquée dans laquelle il y a eu 50 personnes qui ont été tuées en direct il y a quelques mois en Nouvelle-Zélande. Dans les 24 heures qui ont suivi la diffusion en ligne de la vidéo, Facebook a retiré 1 500 000 copies de la vidéo. Ça veut dire qu'il y a 1 500 000 fois la vidéo d'une tuerie en direct qui a été repostée sur les réseaux sociaux. Ce qu'on doit faire, et l'obligation de résultat qu'a l'État, c'est de protéger ses citoyens en ligne comme en ligne. Donc, il faut adresser le problème. Il faut adresser le problème en trouvant la ligne de crête entre liberté d'expression et protection. Mais on a quand même une obligation de résultat sur la protection.
Une petite question un peu connexe. Ce sont les modérateurs donc, qui, dans un premier temps, sinon des algorithmes, mais ça peut être aussi des opérateurs des plateformes qui vont procéder à cette suppression des contenus.
Ouais, dans un premier temps, ce sont des algorithmes, mais dans un second, quand c'est évident, les algorithmes enlèvent les contenus. Et quand il y a un doute, c'est un opérateur qui intervient.
Il y a eu des reportages absolument édifiants sur la façon dont travaillent les modérateurs, par exemple à Facebook aux États-Unis. Des rythmes de travail épouvantables, 8000 messages à scanner. Ils ont 30 secondes par poste pour réagir. Une exposition permanente à ces contenus qui sont absolument épouvantables. Certains en deviennent conspirationnistes. Ça ne vous trouble pas ? Il n'y a pas un moyen de... Vous en avez parlé, par exemple. Je sais que vous avez vu le numéro 2 de Facebook il n'y a pas longtemps. C'est quand même pas un sujet majeur, ça aussi ?
Alors, on en a parlé. Il y a eu, chez certains de vos confrères, des reportages sur le centre de modération qui s'occupe des contenus européens, où je ne pense pas que les conditions de travail soient aussi problématiques que celles que vous évoquez aux États-Unis, notamment le centre de Barcelone. Et d'ailleurs, ce sont des métiers qui ne sont pas si mal payés, par ailleurs. Donc, c'est assez ambivalent.
Qu'est-ce que vous appelez pas si mal payé ?
De l'ordre de mémoire, mais ça reste à vérifier. Je crois que c'était de l'ordre de 25 à 30 000 euros pour des gens qui sortaient à peine d'études. Donc, c'est quand même des salaires assez confortables. Ça pose des sujets, effectivement, de stress post-traumatique, des contenus violents auxquels vous êtes exposé, mais quelque part, c'est une nécessité si on veut faire en sorte qu'il y ait un humain dans la boucle. C'est qu'il faut bien que quelqu'un le regarde. Il faut accompagner, il faut vérifier les conditions de travail de ces personnes, mais il faut qu'il y ait un humain dans la boucle. C'est nécessaire pour protéger la liberté d'expression.
Cédric, il nous reste quelques instants seulement. Je voudrais dire un mot de la fracture numérique. On a beaucoup parlé à l'occasion de la crise des Gilets jaunes parce qu'elle participe de la fracture territoriale. C'est vrai qu'on n'est pas égaux devant la possibilité d'avoir une conversation correcte au portable ou d'avoir une liaison Internet. Il y a encore combien de zones blanches en France ?
Alors, le nombre de zones blanches, je ne saurais pas vous dire. Je sais vous dire qu'il y a 13 millions de personnes qui n'utilisent quasiment pas Internet aujourd'hui. C'est-à-dire un Français sur cinq.
Vous en êtes où de la promesse du haut débit partout ?
On pense qu'on va le tenir à horizon 2020-2022, c'est-à-dire que d'ici 2022, chaque Français aura accès à une bonne connexion. C'est ce qu'on a fait avec le deal avec les opérateurs et le plan très haut débit, et ça se déploie bien.
Parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron, après son élection, avait fixé un objectif intermédiaire pour 2020. N'importe quel citoyen devrait avoir accès au moins au haut débit. C'est un mirage, a récemment dit UFC Que Choisir. C'est une promesse qui ne sera pas tenue.
Nous, on pense qu'on tiendra les engagements qui ont été pris. Je me permets quand même de dire une chose, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir Internet. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont Internet, mais qui ne savent pas s'en servir ou sont très mal à l'aise avec le sujet. Donc il y a un sujet à la fois de formation de ces personnes et également de leur donner accès, pour celles qu'on ne pourra pas former, à quelqu'un qui les accompagnera à côté de chez eux. Et c'est l'ensemble de ce qu'on fait sur les usages et la formation des Français à Internet.
Les Français vous connaissent peu, Cédric Haut. Vous étiez auparavant conseiller à l'Élysée, plutôt dans l'ombre. Voilà, maintenant vous êtes monté au gouvernement. Vous étiez dans l'équipe des Strauss-Kahniens, comme on dit. Vous connaissez donc bien le cœur de la Macronie. D'abord, vous êtes élu. Vous êtes tenté par les municipales l'année prochaine ?
Non, aucunement. Aucunement.
Non.
Non, je pense que je viens
d'être nommé ministre. Le contact avec les électeurs, l'épreuve de l'élection.
Ça n'a absolument rien à voir avec ça. J'ai été nommé ministre il y a 3 ans. Le secrétaire d'État. Il y a 3 mois.
Ça passe vite.
Pardon. Non, je me déplace énormément. Je suis allé dans les Ardennes. Donc, je cherche le contact avec les Français. Je pense que j'ai une mission extrêmement importante. Le numérique, c'est aujourd'hui, c'est partout, tout le temps dans nos vies. je me suis concentré sur ça et je n'ai pas d'ambition municipale.
Et Emmanuel Macron, il doit s'impliquer dans les municipales. Enfin, on a vu hier que c'était déjà fait, mais à Marseille. Est-ce que c'est important, est-ce que vous souhaitez que le président soit assez présent?
Bah, il jugera ce qu'il doit faire, c'est pas à moi de décider à sa place.
Et votre souhait?
Il garde un œil attentif sur les désignations, c'est certain.
Comme ces choses-là sont dites. Merci Cédric Claude d'avoir été ce matin sur RTL.
40 millions de Français sur Facebook, l'État doit aussi protéger ses citoyens en ligne, vient de nous dire le secrétaire d'État au numérique. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.